James, un portrait de femme, chapitre 19. Comme l'avait prédit Mrs. Touchett, Isabelle et Madame Merle se trouvèrent à peu près réduites à leur compagnie réciproque durant la maladie de leur hôte. Ne point devenir intime en de pareilles occasions eût constitué une sorte d'atteinte à la bonne éducation. Or, elles étaient toutes deux fort bien élevées et, au demeurant, se plaisaient beaucoup. S'il était peut-être excessif d'affirmer qu'elles se jurèrent une amitié éternelle, du moins, par un accord tacite, prirent-elles ensemble l'avenir à témoin. Isabelle le faisait avec une entière bonne foi, ce qui ne l'eût pas empêché d'hésiter à se dire l'amie intime de Madame Merle, selon la haute signification que dans son cœur elle attachait à ce terme. Elle se demandait souvent d'ailleurs si elle avait jamais été ou était destinée à devenir l'intime de personne. Elle se faisait de l'amitié, comme de quelques autres sentiments, une conception idéale, à laquelle il ne lui paraissait pas que le cas actuel, plus que d'autres auparavant, répondît de façon parfaite. Elle se souvenait aussi qu'il y avait des raisons essentielles pour empêcher un idéal de jamais prendre forme concrète. C'était chose plus sensible que visible, question de foi et non point d'expérience. Cependant, l'expérience pouvait en donner des imitations fort acceptables, dont la raison devait intervenir pour faire tirer le meilleur parti possible. Et à tout prendre, Isabelle n'avait sûrement jamais rencontré personne plus agréable et plus intéressante que Madame Merle, ou plus dépourvue de ce défaut qui est le principal obstacle à l'amitié, l'air de reproduire les traits les plus fastidieux, les plus rassis, les plus odieusement familiers de son propre caractère. Les portes de la confiance du cœur de la jeune fille s'ouvraient plus grandes qu'elle ne l'avait jamais fait, et elle avouait à cette aimable compagne des choses qu'elle n'avait encore jamais dites à personne. Elle s'inquiétait parfois de cette confiance, comme si elle eût donné à une quasi-étrangère la clé de sa cassette à bijoux. Ces pierreries spirituelles étaient les seuls joyaux de quelque importance que possédât Isabelle, ce qui n'était qu'une raison de plus pour les garder jalousement. Par la suite pourtant, elle se souvint toujours qu'il ne faut pas regretter une erreur généreuse, et que si Madame Merle ne possédait pas les mérites qu'elle lui attribuait, c'était tant pis pour Madame Merle. Elle montrait indubitablement de grands mérites. Elle était charmante, sensible, intelligente, cultivée. Plus encore, car Isabelle n'avait pas eu la malchance de passer dans la vie sans rencontrer des personnes de son sexe dont on eût pu moins dire, elle était d'espèce rare, supérieure et éminente. Il y a beaucoup d'aimables personnes en ce monde, et Madame Merle était loin d'avoir une bienveillance vulgaire et un esprit sans cesse agité. Elle savait réfléchir, qualité rare chez les femmes, et réfléchissait à bon escient. Elle ne savait pas moins sentir, et Isabelle n'aurait pu passer une semaine avec elle sans en avoir la certitude. C'était même, à vrai dire, le grand talent, le don le plus précieux de Madame Merle. La vie avait pesé sur elle, elle l'avait profondément subi, et une grande partie du plaisir qu'Isabelle trouvait en sa société, c'est que lorsqu'elle se mettait à parler de questions sérieuses, comme elle disait, Madame Merle la comprenait vite et bien. L'émotion était, à la vérité, devenue chez elle un fait de mémoire. Elle ne dissimulait pas que la source de ses passions, pour avoir été un temps trop vivement sollicitée, ne coulait plus comme autrefois. Elle espérait bien cesser définitivement de sentir, et, admettant sans réticence qu'elle avait été naguère un peu folle, n'aspirait plus à l'avenir qu'à un parfait équilibre. « Je juge plus qu'autrefois, expliquait-elle à Isabelle, parce qu'il me semble que j'en ai acquis le droit. On ne peut pas juger avant 40 ans. On est trop violent, trop dur, trop cruel, et par-dessus le marché, trop ignorant. Je le déplore pour vous. Il vous faudra attendre longtemps la quarantaine. D'ailleurs, chaque avantage comporte aussi un inconvénient. Je me dis souvent qu'après 40 ans, on ne sait plus sentir. La fraîcheur, la spontanéité sont des choses du passé. Vous les conserverez plus longtemps que d'autres, et ce sera pour moi une grande satisfaction de vous voir dans quelques années d'ici. Je veux me rendre compte de ce que la vie fera de vous. Une chose est du moins certaine, c'est qu'elle ne vous abîmera pas. Peut-être vous éprouvera-t-elle durement, mais je la défie de vous briser. » Isabelle reçut cette assurance comme un jeune soldat, tout haletant encore d'une escarmouche dont il vient de se tirer avec honneur, pourrait recevoir de son colonel une tape sur l'épaule. Comme cette reconnaissance de mérite, elle semblait faite avec autorité. Comment accueillir autrement le moindre éloge d'une personne toujours prête à répondre à presque tout ce que disait Isabelle « Oh, ma chère, j'ai connu cela, cela passe comme le reste !» Madame Merle pouvait produire un effet irritant sur nombre de ses interlocuteurs, par son refus systématique à se laisser surprendre. Mais Isabelle n'éprouvait pour l'instant aucun désir de l'étonner, bien qu'elle ne fût pas indifférente à l'effet qu'elle produisait. Elle portait pour cela un intérêt trop sincère à sa sagace amie. Ajoutons d'ailleurs que Madame Merle ne promenait jamais un ton de triomphe ou de vantardise pour prononcer ces paroles, qui tombaient de ses lèvres comme des aveux sans fièvre. Une période de mauvais temps s'était abattue sur Garden Court. Les jours raccourcissaient, et c'en était fini des gouttées sur la pelouse. Notre héroïne avait de longs entretiens au salon avec sa compagne, et bravant la pluie, les deux dames partaient souvent de conserve, équipées de l'appareil défensif que le climat et le génie anglais combinés ont porté à un tel degré de perfection. Madame Merle, qui aimait tout, ne faisait pas d'exception pour la pluie anglaise. « Il y en a toujours un peu et jamais trop à la fois, » expliquait-elle. « Elle ne mouille jamais et sent toujours bon. » Elle proclamait qu'en Angleterre les plaisirs de l'odorat étaient grands, que dans cette île inimitable, il y avait un parfum mêlé de brouillard, de bière et de suie, qui, malgré sa singularité d'arôme national, était fort agréable aux marines. Elle enfouissait le nez dans la manche de son manteau anglais et humait l'odeur nette et saine de la laine. Le pauvre Ralph Touchett menait une vie de reclus depuis que l'automne commençait à s'affirmer. Le mauvais temps lui interdisait toute sortie, et force lui était de se contenter de se poster, les mains dans les poches, à l'une des fenêtres, pour regarder avec une expression mi-chagrine, mi-critique, Isabelle et Madame Merle descendre la grande allée sous une paire de parapluies. Les chemins étaient si fermes, autour de Garden Court, même par les temps les plus affreux, que les deux dames revenaient toujours avec un visage animé, et déclaraient, en regardant les semelles de leurs nettes et fortes bottines, que leur promenade leur avait fait un bien inexprimable. Jusqu'au déjeuner, Madame Merle était toujours occupée, et Isabelle admirait et enviait l'immuable emploi de sa matinée. Notre héroïne avait toujours passé pour femme de ressources, et mettait certain orgueil à l'être, mais elle se sentait séparée comme par un mur du jardin clos des talents, des aptitudes, des dons particuliers de Madame Merle. Elle eût voulu s'y initier et s'égaler à une femme qui avait 20 façons de se donner en modèle. « Comme je voudrais lui ressembler !» s'écria plusieurs fois dans son fort intérieur Isabelle, en voyant l'un après l'autre les plus beaux traits de son amie au grand jour. Elle ne fut pas longue à s'apercevoir qu'elle était à bonne école, et à se sentir du même coup soumise à une influence. « Qu'importe !» se demandait-elle, du moment que l'influence est salutaire. « Plus on s'y soumet, et mieux cela vaut. » Le tout est de regarder devant soi et de savoir où l'on va. Cela, je n'y manquerai jamais. Je n'ai guère à craindre de devenir trop malléable. Ce n'est pas ma faute si je ne le suis pas assez. On dit que l'imitation est la forme la plus sincère de la flatterie. Si Isabelle se sentait parfois portée à contempler son amie avec un muet désespoir, c'était bien moins par envie de briller elle-même que par désir de tenir la lampe pour Madame Merle. Elle éprouvait pour elle une sympathie extrême, mais se sentait encore plus éblouie qu'attirée. Elle se demandait parfois ce qu'Henriette Stackpole eût pensé de son admiration pour le produit perverti de leur patrie commune, et se disait qu'elle l'eût sévèrement jugé. Pour des raisons qu'elle n'eût su définir, Isabelle était convaincue qu'Henriette n'eût pas aimé Madame Merle, alors qu'au contraire, sa nouvelle amie ne pouvait manquer, si l'occasion s'en présentait, de se faire une bonne opinion de l'ancienne. Madame Merle était trop enjouée et trop fine pour ne pas rendre justice à Henriette, et devait, en cas de rencontre, faire montre d'un tact que Miss Stackpole ne pourrait songer à égaler. Elle semblait posséder une pierre de touche universelle et trouverait dans le vaste grenier de sa mémoire la clé de la valeur d'Henriette. « C'est bien la chose importante, » songeait gravement Isabelle, « la suprême bonne fortune, d'être en meilleure situation pour apprécier les gens qu'ils ne le sont pour vous apprécier. » Et elle ajoutait qu'à bien considérer, telle était l'essence de l'éminence aristocratique. Et c'était, en l'absence de tout autre argument, une raison de l'envier. Peut-être n'ai-je pas dénombré tous les maillons de la chaîne qui conduisaient Isabelle à qualifier d'aristocratique la situation de Madame Merle, sans que la dame elle-même eût jamais fait la moindre allusion en ce sens. Elle avait traversé de grands événements et connu de grands personnages, sans jamais jouer un grand rôle. Elle appartenait aux petits de la terre, n'était pas née pour les honneurs, connaissait trop bien le monde pour nourrir de vaines illusions sur la place qu'elle y occupait. Elle avait rencontré nombre des rares favoris de la fortune et savait parfaitement par quel point leur sort différait du sien. Mais si sa pondération sagace n'en faisait pas un personnage de premier plan, elle ne gardait pas moins une sorte de grandeur aux yeux d'Isabelle. Posséder une telle culture, un tel raffinement, tant d'expérience et tant de facilité, et ne pas plus s'en faire accroire, c'était vraiment se montrer grande dame, surtout quand on se comportait et se présentait comme elle. C'était comme si elle avait mis à contribution toute la société, tous les arts et toutes les grâces qu'elle pratique, ou plutôt peut-être comme si on l'avait trouvé des usages charmants pour son bénéfice spécial, comme si, où qu'elle fût, elle avait rendu de silencieux services à un monde tapageur. Après le déjeuner, elle écrivait une série de lettres, aussi innombrables que celles qu'elle recevait. Sa correspondance était une source de surprise pour Isabelle, chaque fois qu'elle se rendait ensemble au bureau du village pour y déposer le tribut de Madame Merle à la poste. Elle connaissait assez de gens, comme elle le disait à sa jeune amie, pour n'en savoir que faire, et il survenait toujours un événement qui demandait à être conté. Elle témoignait d'un goût marqué pour la peinture et n'avait pas plus de peine à faire un croquis qu'à ôter ses gants. À Garden Court, elle profitait du moindre rayon de soleil pour aller installer son pliant et sa boîte d'aquarelle. Qu'elle fût bonne musicienne, nous le savons déjà, et la meilleure preuve en est que lorsqu'elle s'asseyait au piano comme elle le faisait chaque soir, ses auditeurs consentaient sans murmure à se priver du charme de sa conversation. Isabelle, depuis leur rencontre, avait honte de son propre jeu, qu'elle estimait tristement inférieur. Et, en vérité, bien qu'on le tînt chez elle pour une sorte de prodige, l'assistance perdait plus qu'elle ne gagnait à la voir prendre place sur le tabouret du piano et tourner le dos à la pièce. Quand Madame Merle n'écrivait, ne peignait ou ne jouait pas du piano, elle s'occupait d'étonnants travaux de broderie, de coussins, de rideaux, de garnitures de cheminée, tâche dans laquelle son imagination libre et hardie était aussi remarquable que l'agilité de son aiguille. Elle ne restait jamais oisive, car lorsqu'elle ne s'employait à aucune des besognes que je viens d'énumérer, elle lisait. Elle faisait l'effet à Isabelle de lire tout ce qui était marquant, se promenait, faisait des patiences ou causait avec les hôtes de la maison. Et avec tout cela, elle demeurait essentiellement sociable, ne montrait jamais de distractions impolies et ne s'affirmait jamais trop. Elle renonçait à ses passe-temps sans plus de peine qu'elle s'y adonnait, elle travaillait et causait à la fois et ne semblait accorder qu'une piètre valeur à tout ce qu'elle faisait. Elle donnait ses esquisses et ses tapisseries, quittait le piano où y demeurait selon le goût de ses auditeurs, qu'elle devinait toujours exactement. C'était en définitive la personne la plus agréable, la plus profitable, la plus avantageuse avec qui l'on pût vivre. Si notre jeune amie lui reconnaissait un défaut, c'était de manquer de naturel. Par ces mots, la jeune fille n'entendait pas qu'elle fût affectée ou prétentieuse, car nulle femme ne pouvait être plus exempte de ses vices vulgaires, mais que sa nature était trop écrasée par l'éducation et ses angles trop émoussés. Elle était devenue trop flexible, trop ductile, et affectait une maturité et une perfection excessives. Elle répondait trop, en un mot, à cet idéal de l'animal sociable que l'homme et la femme sont censés devoir atteindre, et s'était défaite des derniers vestiges de cette tonique sauvagerie que devaient conserver les personnes les plus aimables avant que ne s'organisât l'existence des campagnes. Isabelle avait peine à se l'imaginer dans la solitude et loin de ses contemporains, tant elle ne paraissait trouver de raison d'être que dans ses rapports directs ou indirects avec eux. On pouvait se demander quel commerce elle entretenait avec son propre esprit, ce qui n'empêchait pas de s'apercevoir qu'une charmante surface n'est pas nécessairement superficielle, c'est là une illusion à laquelle la jeunesse échappe avec quelque peine. Madame Merle ne comportait rien de superficiel, elle était même profonde, et si sa véritable nature parlait un langage conventionnel, ne s'exprimait pas moins dans ses actes. Qu'est-ce donc que le langage, sinon une convention ? Se demandait Isabelle. Elle a le bon goût de ne pas prétendre, comme d'autres gens que j'ai rencontrés, s'exprimer en signes originaux. « J'ai peur que vous n'ayez beaucoup souffert », eut-elle l'occasion de dire un jour à son amie, pour répondre à une allusion qui semblait impliquer un monde de sous-entendus. « Qu'est-ce qui vous le fait croire ? » demanda Madame Merle, avec le sourire attentif d'une personne qui joue aux devinettes. « J'espère n'avoir pas une attitude trop penchée d'incomprise. » « Vous dites parfois des choses dont je pense que des gens constamment heureux ne les trouveraient pas. » « Je n'ai pas toujours été heureuse, » avoua Madame Merle, sans cesser de sourire, et avec une gravité feinte, comme une personne qui confie un secret à un enfant. « C'est évidemment une chose étonnante. » Isabelle ne demeura pas en reste d'ironie. « Il y a beaucoup de gens qui me donnent l'impression de n'avoir jamais rien éprouvé. »« C'est parfaitement exact. Il y a bien plus de pots de fer que de vases de porcelaine. » Croyez bien cependant que chacun de nous porte sa marque. Les plus solides des pots de fer présentent une petite bosse, une petite fêlure, quelque part. Je me flatte d'être assez robuste, bien qu'à vous dire la vérité, j'ai été assez tristement malmenée et brisée. Je fais encore un bon service parce qu'on m'a très adroitement raccommodée. et je tâche de rester le plus possible dans le placard, le bon placard tranquille et sombre où flotte un parfum de vieilles épices. Quand il faut que j'en sorte pour me montrer en pleine lumière, alors, ma chère, je suis une horreur. Je ne sais si c'est à cette occasion, ou quelque autre jour où la conversation avait pris ce même tour, qu'elle promit à Isabelle de lui raconter une histoire. Isabelle affirma qu'elle se ferait une vraie joie de l'écouter, et rappela plus d'une fois cette promesse à son amie. Mais après avoir demandé plus d'un répit, Madame Merle finit par déclarer franchement à sa jeune amie qu'il leur faudrait attendre pour cela de se mieux connaître. Ce qui ne pouvait manquer d'arriver, puisqu'une longue amitié se nouait manifestement entre elles. Isabelle acquiesça, sans laisser pourtant de demander si elle faisait l'impression d'une personne indigne de confiance et capable de trahir un secret. « Je n'ai pas la moindre crainte, croyez-le bien, de vous voir répéter ce que je vous aurais dit, » répondit Madame Merle. « J'ai peur au contraire que vous ne vous y appesantissiez trop. Vous me jugeriez sévèrement, car vous êtes à l'âge cruel. » Elle préférait pour le moment parler à Isabelle d'Isabelle elle-même, et témoignait le plus grand intérêt pour l'histoire, les sentiments, les opinions, les perspectives d'avenir de notre héroïne. Elle la faisait bavarder et écoutait son bavardage avec une complaisance sans bornes. Cette attention flattait et exaltait la jeune fille, qui s'étonnait du nombre de personnages distingués qu'avait connus son amie et de son constant commerce avec la meilleure société d'Europe, comme le disait Mrs. Touchett. Isabelle prenait meilleure opinion d'elle-même depuis qu'elle jouissait de la faveur d'une personne pourvue d'un champ de comparaison exceptionnel, et c'était peut-être pour se prévaloir d'exemples antérieurs qu'elle puisait dans ses trésors de souvenirs. Madame Merle avait habité plusieurs pays et gardait des relations dans une douzaine de nations différentes. « Je n'ai pas la prétention d'être bien élevée, disait-elle, mais je crois connaître mon Europe. » Elle parlait un jour d'aller voir une vieille amie de Suède, et le lendemain d'accompagner à Malte une connaissance nouvelle. Quant à l'Angleterre, qu'elle avait souvent habitée, elle la connaissait à fond et mettait en lumière, pour le profit d'Isabelle, les mœurs d'un pays et le caractère de gens qui, somme toute, comme elle se plaisait à le dire, étaient les plus faciles du monde à vivre. Ne vous étonnez pas de la voir s'attarder chez nous au moment où Mr. Touchett va disparaître, disait la femme du moribond à sa nièce. Elle ne fait jamais de bourde, et c'est la femme la plus étonnante de tact que je connaisse. C'est une faveur de sa part que de rester ici, et elle remet pour cela nombre de visites à de hautes familles. Mrs. Touchett n'oubliait jamais qu'en Angleterre, sa propre valeur sociale tombait de 2 ou 3 degrés. Elle a le choix et ne manque pas de refuge. C'est moi qui l'ai priée cette fois-ci de rester un peu plus longtemps parce que je veux que vous la connaissiez. Je crois que ce sera d'un grand profit pour vous. Madame Merle est la perfection même. Si je ne l'aimais pas déjà beaucoup, cet éloge pourrait m'inquiéter, objecta Isabelle. On ne la trouve jamais en défaut. Je vous ai amené ici et veux faire pour vous tout ce que je pourrais. Votre sœur Lily m'a dit qu'elle espérait que je saurais vous offrir de nombreuses chances de fortune. C'est vous en donner une que de vous mettre en rapport avec Madame Merle. C'est une des femmes les plus brillantes d'Europe. Je la préfère à votre description, persista à dire Isabelle. Vous flattez-vous de jamais trouver sujet de critique sur son compte? J'espère que vous me le direz le jour où cela vous arrivera. Ce serait cruel, pour vous. « Ne vous occupez pas de moi, vous ne lui découvrirez pas de défauts. C'est possible, cela ne me chagrinerait pas. »« Elle sait absolument tout ce que l'on peut savoir sur Terre, » insista Mrs. Touchett. Isabelle demanda bientôt à leur amie si elle connaissait l'opinion que Mrs. Touchett se faisait de sa perfection sans tache. « Je vous suis très obligée de me l'apprendre, » répondit Madame Merle, tout en craignant que votre tante refuse d'envisager, ou du moins de désigner, ces aberrations que nul cadran n'enregistre. « Ce qui veut dire que vous avez, à son insu, un côté de folie ? Oh non, j'ai peur que mes traits les plus noirs ne soient aussi les plus sages. J'entends que l'absence de défaut pour votre tante, cela consiste à n'arriver jamais en retard au dîner, c'est-à-dire à son dîner. Je n'étais pas en retard, soit dit en passant, le soir de votre retour de Londres. Il était 8 heures précises quand je suis entrée au salon, c'est vous qui étiez en avance. » Cela consiste à répondre aux lettres par retour du courrier, à n'apporter pas trop de bagages quand on vient chez elle, et à prendre bien soin de ne pas tomber malade. Voilà ce qui constitue la vertu aux yeux de Mrs. Touchett, et elle a bien de la chance de pouvoir la réduire à de tels éléments. On voit que la conversation de Madame Merle s'émaillait de traits de libre critique, qui, même lorsqu'ils comportaient un sens hardi de restriction, ne semblait jamais dicté par la malveillance. La jeune fille ne pouvait imaginer que l'amie accomplie de Mrs. Touchett pût jamais la tromper sciemment. Elle avait de bonnes raisons pour cela. D'abord, Isabelle possédait un sentiment très fin des nuances. En second lieu, le ton de Madame Merle impliquait qu'elle n'en aurait eu beaucoup plus long à dire. Enfin, il était évident que le fait pour une personne de parler sans restriction à une amie de ses proches parents était une marque agréable d'intimité. Ces signes de sympathie profonde se multipliaient au fur et à mesure des jours, et il n'y en avait pas auquel la jeune fille fût plus sensible qu'à la prédilection de son amie pour tout ce qui concernait Isabelle elle-même. Bien qu'elle fît de fréquentes allusions aux incidents de sa propre carrière, elle ne s'y arrêtait jamais, étant aussi peu portée à un égoïsme grossier qu'à un vain bavardage. « Je suis cassée, passée, fanée, disait-elle souvent, et sans plus d'intérêt qu'un journal vieux d'une semaine. Vous, vous êtes jeune, fraîche et du jour, vous possédez la grande chose, l'actualité. Moi aussi je l'ai possédée autrefois, nous la gardons tous une heure, mais vous, vous la conserverez plus longtemps. Parlons donc de vous. Vous ne pouvez rien dire de vous-même qui ne m'intéresse. C'est un signe d'âge que d'aimer parler avec la jeunesse. Cela me fait l'effet d'une très jolie compensation. Faute de trouver la jeunesse en soi, on la trouve dehors, et je crois vraiment qu'on la voit et qu'on la sent mieux ainsi. Évidemment, il faut être en sympathie avec elle, comme je le serai toujours. Je ne crois pas faire jamais montre d'hostilité pour les vieux. Il y a certainement des vieillards que j'adore, mais, en face des jeunes gens, je serai toujours désarmée tant ils me touchent et m'émeuvent. Je vous donne donc carte blanche, libre à vous d'être impertinente si cela vous chante, je vous laisserai faire et vous gâterai horriblement. Vous dites que je parle comme si j'avais 100 ans, c'est que je les ai, vous savez, je suis née avant la Révolution française. Ah, ma chère, je viens de loin, j'appartiens au vieux, vieux monde. Mais ce n'est pas de lui que je veux parler, c'est du nouveau monde. Racontez-moi tout ce que vous savez de l'Amérique, vous ne m'en dites jamais assez long. J'ai vécu en Europe depuis ma petite enfance, et il est ridicule, ou plutôt un peu scandaleux, de penser à mon ignorance touchant ce pays splendide, terrible et bizarre, certainement le plus grand et le plus drôle de tous. Nous sommes un bon nombre comme cela par ici, et nous formons un groupe assez malheureux. Il faut vivre dans son pays, quel qu'il soit, c'est là qu'on a sa vraie place. Si nous ne sommes pas bons Américains, nous sommes certainement de pauvres Européens, nous n'avons pas su nous faire notre place. Nous sommes des parasites qui nous traînons à la surface, nos pieds ne s'enfoncent pas dans la terre. Du moins peut-on s'en rendre compte et ne pas se faire d'illusions. Une femme s'en tire encore, elle n'a jamais de place désignée nulle part, et où qu'elle se trouve est condamnée à demeurer à la surface et à plus ou moins s'y traîner. Vous protestez, mon ami, vous êtes horrifié, vous déclarez que vous ne ramperez jamais. J'avoue que je ne vous vois pas ramper, vous vous tenez plus droite que bien des pauvres créatures. Très bien, au total, je ne crois pas que vous rampiez jamais. Mais les hommes, les Américains, je vous demande un peu ce qu'ils font ici. Je ne les envie pas quand je les vois s'efforcer de s'accommoder à cette vie. Regardez le pauvre Ralph Touchett. Comment appelez-vous cette espèce d'homme-là? Heureusement, il a ses poumons. Je dis heureusement parce que cela lui donne quelque chose à faire. Sa maladie, c'est sa carrière. Cela lui fait une espèce de situation. On dit « Mr. Touchett, il s'occupe de sa santé. Il a une belle science des climats. » Mais sans cela, que serait-il? Que représenterait-il, Mr. Ralph Touchett? Un Américain qui habite l'Europe. Cela ne signifie absolument rien. Il est impossible de rien trouver qui signifie moins. C'est un homme cultivé, dit-on. Il a une très belle collection de tabatières. Pour en faire un individu pitoyable, il ne manque plus que la collection. Ce mot-là m'exaspère et je le trouve grotesque. Avec son pauvre père, il en va autrement. Il a sa personnalité qui est plutôt marquante. Il représente un gros établissement financier. Et à notre époque, cela vaut autant que n'importe quoi. Pour un Américain, en tout cas, cela fait très bien. Oui, je persiste à penser que votre cousin a de la chance de traîner une maladie chronique tant qu'il n'en meurt pas. Cela vaut bien mieux que les tabatières. S'il n'était pas malade, me direz-vous, il ferait quelque chose. Il prendrait la place de son père dans sa maison. Ma pauvre amie, vous me permettrez d'en douter. Je ne lui crois aucun goût pour la banque. Il est vrai que vous le connaissez mieux que moi. Bien que je l'ai fort pratiqué jadis, et on peut lui accorder le bénéfice du doute. Le cas le plus pitoyable que je connaisse est celui d'un ami à moi, un de nos compatriotes, qui vit en Italie, où il a été conduit lui aussi avant de s'en rendre compte, et qui est l'un des hommes les plus charmants que l'on puisse voir. Il faudra que vous fassiez sa connaissance. Je vous le ferai rencontrer, et vous comprendrez ce que je veux dire. Il s'appelle Gilbert Osmond, et habite l'Italie. C'est tout ce qu'on peut en dire ou en faire. Il est excessivement intelligent, c'est un homme fait pour se distinguer, mais, je le répète, on a tout dit sur son compte quand on a parlé de Mr. Osmond, qui vit, tout bêtement, en Italie. Pas de carrière, pas de nom, pas de situation, pas de fortune, pas de passé, pas d'avenir, pas de quoi que ce soit. Oh, pardon, il fait de la peinture, de l'aquarelle, comme moi, mais mieux. Sa peinture ne vaut pas grand-chose, et à tout prendre, je m'en réjouis. Heureusement, il est très indolent, si indolent que cela lui tient en quelque sorte de situation. Il peut toujours dire « Je ne fais rien à cause de mon infernale paresse ». On arrive à quelque chose de nos jours qu'à la condition de se lever à 5 heures du matin. Il finit par devenir une manière de curiosité. On se dit qu'il ferait quelque chose s'il consentait à se lever tôt. Il ne parle jamais de sa peinture au grand public. Il est trop intelligent pour cela. Il a une petite fille, une délicieuse petite fille, et il parle d'elle. Il l'adore. Et si la paternité était une carrière, il s'y ferait une place remarquable. Mais je crains bien qu'on n'y trouve pas plus d'avenir que dans les tabatières. Même pas autant, peut-être. Racontez-moi ce qu'on fait en Amérique, poursuivait Madame Merle, qui, disons-le en passant, ne lançait pas d'un coup toutes ses réflexions, groupées ici pour la commodité du lecteur. Elle parlait de Florence, où vivait Monsieur Osmond, et où Mrs. Touchett habitait un palais du Moyen-Âge. Elle parlait de Rome, où elle possédait un modeste pied-à-terre, avec quelques damas assez beaux. Elle parlait de villes, de gens, voire de sujets tout faits, et, de temps en temps, du bon vieux maître de la maison et de ses perspectives de survie. Dès l'abord, elle en avait jugé l'espoir très faible, et Isabelle était frappée de la façon positive, judicieuse et compétente avec laquelle elle supputait la durée probable de ses jours. Un soir, elle annonça positivement qu'il était condamné. Sir Matthew Hope me l'a laissé entendre aussi nettement qu'il le pouvait, là, devant la cheminée, en attendant le dîner. Il sait se rendre très agréable, le grand docteur. Je ne veux pas dire qu'il l'ait montré en me donnant ce genre d'avertissement, mais il sait dire ces choses-là avec un tact parfait. Je venais de lui faire part de ma gêne à demeurer ici en un pareil moment, et du sentiment d'indiscrétion que j'y trouve. Ce n'est pas comme si je pouvais aider à soigner le malade. « il faut rester, m'a-t-il répondu. Votre rôle va bientôt commencer. » N'était-ce pas une façon très délicate de dire que le pauvre Mr. Touchett allait mourir et que j'aurais à remplir l'office de consolatrice? Je sais bien au demeurant que ce rôle ne sera pas accablant. Votre tante se consolera sans aide, elle et elle seule, c'est la somme de consolation dont elle aura besoin. Ce serait pour une autre personne une entreprise très délicate que de vouloir lui administrer la dose nécessaire. Il n'en ira pas de même pour votre cousin. Son père va terriblement lui manquer. Mais je ne me risquerai jamais à présenter mes condoléances à Monsieur Ralph. Nous ne sommes pas assez en bons termes pour cela. » Madame Merle avait fait plus d'une allusion à l'état mal défini de ses rapports avec Ralph Touchett, et Isabelle saisit l'occasion de lui demander s'ils n'étaient pas bons amis. « Très bon, bien qu'il ne m'aime pas. Que lui avez-vous donc fait ? Rien du tout. Il n'y a pas besoin de raison pour cela. Pour ne pas vous aimer, il me semble qu'il faut avoir une très bonne raison. Vous êtes trop aimable. Tâchez d'en avoir une toute prête pour le jour où vous commencerez. Commencez à ne plus vous aimer, cela n'arrivera jamais. » « Je le souhaite, parce que, si vous commencez, ce sera pour toujours. C'est ce qui arrive à votre cousin. Il ne peut surmonter une antipathie naturelle, si je puis employer ce terme pour un sentiment tout unilatéral. Je n'ai rien à lui reprocher et ne lui tiens nulle rigueur de ne pas me rendre justice. La justice, c'est tout ce que je demande. Cela n'empêche pas de sentir en lui un homme bien élevé et incapable d'aucune insinuation sournoise. « Carte sur table, » conclut Madame Merle, qui ajouta au bout d'un moment, « je n'ai pas peur de lui. » « Je l'espère bien, » dit Isabelle, qui affirma que son cousin était le meilleur homme du monde. Elle se souvenait cependant qu'à la première question qu'elle avait posée à Ralph sur Madame Merle, il avait fait une réponse que cette dame aurait pu trouver déplaisante, sinon explicite. « Il y avait quelque chose entre eux, » songeait Isabelle. Elle n'en disait pas davantage. Si c'était une chose d'importance, elle avait de quoi inspirer le respect. Dans le cas contraire, il était inutile de s'y arrêter. Malgré tout son amour de la clarté, Isabelle avait une répugnance instinctive à soulever les rideaux et à fouiller les coins obscurs. L'amour de la connaissance habitait son esprit côte à côte avec la plus belle faculté d'ignorance. Mais sa nouvelle amie disait parfois des choses qui la faisaient tressaillir et lui fournir par la suite matière à réflexion. « Je donnerais gros pour me retrouver à votre âge !» s'écria un jour Madame Merle avec une amertume que son habituelle aisance dissimulait insuffisamment. « Si je pouvais seulement recommencer, si j'avais la vie devant moi. »« Vous l'avez encore devant vous, » répondit doucement Isabelle, que cette sortie avait émue. « Non, la plus grande partie en est passée, et passée en vain. »« Sûrement pas. Qu'en ai-je donc tiré ? Ni mari, ni enfant, ni fortune, ni situation, ni reste d'une beauté que je n'ai jamais eue. »« Vous avez beaucoup d'amis, chère madame. »« Je n'en suis pas très sûre, » s'écria Madame Merle. « Ah là, vous avez tort, vous avez des souvenirs, du charme, des talents !» Madame Merle l'interrompit. Que m'ont-ils rapporté ces talents? Rien de plus que la nécessité de recourir toujours à eux, de tuer les heures et les jours, de me tromper moi-même par quelque faux semblant de mouvement, de m'endormir. Quant à mon charme et à mes souvenirs, moins on en parlera, mieux cela vaudra. Vous serez mon ami tant que vous ne trouverez pas meilleur usage à faire de votre amitié. Il vous appartient de veiller à ce que cela ne m'arrive pas. Oui, je ferai un effort pour vous garder. » Et Madame Merle regardait sa jeune amie d'un air grave. Quand je dis que je voudrais avoir votre âge, il faut entendre, avec vos qualités de franchise, de sincérité, de générosité, je saurais faire meilleur usage de ma vie. Qu'auriez-vous donc souhaité faire, que vous n'ayez fait? Madame Merle prit un cahier de musique, elle était assise au piano et s'était brusquement retournée pour parler à Isabelle, et se mit à en tourner les pages. « Je suis très ambitieuse, » répondit-elle lentement. « Et vos ambitions n'ont pas été satisfaites? Il fallait qu'elles fussent bien hautes. » Elle l'était. Je me couvrirais de ridicule en vous en parlant. » Isabelle se demanda quelles pouvaient être ses ambitions et si Madame Merle avait aspiré à porter une couronne. « Je ne sais pas quelle idée vous vous faites du succès, mais vous me paraissez à moi y être parvenue. À mes yeux, vous en représentez l'image vivante. » Madame Merle remit le cahier en place avec un sourire. « Et vous, quelle idée vous faites-vous du succès ?»« Vous devez évidemment la trouver bien pâle. » C'est de voir se réaliser un rêve de jeunesse. Ah, s'écria Madame Merle, voilà ce qui ne m'est jamais arrivé. Mes rêves étaient si grands, si parfaitement irréalisables. Dieu me pardonne, je rêve encore. Et se retournant vers le piano, elle se mit à jouer avec une expression solennelle. Le lendemain, elle dit à Isabelle que sa définition du succès était très jolie, mais très triste. De ce point de vue, qui aurait jamais pu réussir? Les rêves de la jeunesse? Les rêves enchanteurs et divins, qui les a jamais vus se réaliser? Moi, quelquefois, répondit timidement Isabelle. Déjà, ce devait être des rêves d'hier. J'ai commencé à rêver très jeune, sourit Isabelle. Ah, si vous parlez des aspirations enfantines, celles d'avoir une ceinture rose et une poupée qui ferme les yeux. Non, ce n'est pas cela que je veux dire. Ou un jeune homme à moustache blonde qui tombe à vos genoux? Non. « Pas cela non plus, déclara Isabelle avec un redoublement d'emphase. » Madame Merle parut frappée de cet accent. « Je soupçonne que c'est bien cela, votre rêve. Nous avons toutes rêvé du jeune homme à moustache. Il est inévitable et sans importance. » Isabelle resta un moment silencieuse, puis reprit avec un illogisme aussi prononcé que caractéristique. « Pourquoi ne compterait-il pas? Il y a jeunes gens et jeunes gens. » « Et le vôtre était un parangon, n'est-ce pas ?» demanda son ami en riant. Si vous avez trouvé le type précis de jeune homme dont vous rêviez, c'est un succès dont je vous félicite de tout mon cœur. Seulement, je ne vois pas pourquoi vous n'avez pas filé avec lui dans son château des Apennins. Il n'a pas de château dans les Apennins. Qu'a-t-il alors? Une vilaine maison de briques dans la 40e rue? Ne me dites pas une pareille chose, je refuse de qualifier cela d'idéal. Je n'ai que faire de sa maison, dit Isabelle. C'est une erreur de votre part. Quand vous aurez vécu aussi longtemps que moi, vous verrez que tout être humain possède sa coquille, et qu'il faut bien en tenir compte. Par coquille, j'entends tout le jeu des circonstances. Vous ne trouverez jamais un homme ou une femme isolé. Chacun de nous est un faisceau de réciprocité. Qu'est-ce que nous appelons notre personnalité? Où commence-t-elle? Où finit-elle? Elle imprègne tout ce qui nous appartient, puis s'en retire. Je sais qu'une grande partie de la mienne tient dans les robes que je choisis. J'ai un grand respect pour les choses. La personnalité pour les autres, c'est l'expression de l'être. Et une maison, des meubles, des vêtements, les livres qu'on lit, les gens que l'on fréquente, tout cela exprime quelque chose. Ces réflexions étaient d'ordre assez philosophique, comme nombre de celles que faisait Madame Merle. Isabelle aimait la philosophie, mais n'était pas de taille à suivre son amie dans cette analyse hardie de la personnalité humaine. « Je ne suis pas de votre avis, pas du tout. Je ne sais si j'arrive à m'exprimer moi-même, mais je suis certaine qu'aucun objet ne saurait le faire. » Rien de ce qui m'appartient n'est à ma mesure. Au contraire, tout est limite et barrière, parfaitement arbitraire. Non, certainement, les robes que je choisis, comme vous dites, ne révèlent pas mon être, et j'en rends grâce au ciel. Vous vous habillez très bien, lança doucement Madame Merle. C'est possible, mais il ne me plairait pas d'être mesurée à cette aune. Mes robes peuvent laisser deviner la couturière, et pas moi. Pour commencer, ce n'est pas mon choix qui en est responsable, c'est la mode qui me les impose. Préféreriez-vous aller toute nue? Demanda Madame Merle d'un ton qui mettait pratiquement un terme à l'entretien. Je dois avouer, au risque de laisser planer quelques doutes sur la loyauté de notre héroïne à l'égard de sa remarquable amie, qu'Isabelle ne lui avait pas soufflé mot de Lord Warburton non plus que de Caspar Goodwood. Elle ne s'était pourtant pas cachée d'avoir reçu des offres de mariage, et laissait même entendre à Madame Merle qu'elles étaient de nature très flatteuses. Lord Warburton avait quitté Lockley pour se rendre en Écosse avec ses sœurs, et bien qu'il eût écrit plusieurs lettres à Ralph pour s'enquérir de l'état de Mr. Touchett, Isabelle n'avait pas eu à subir l'embarras de visite que, resté dans le voisinage, il se fût senti probablement tenu de faire en personne pour avoir des nouvelles. Il était parfaitement bien élevé, mais notre héroïne était convaincue que, venant à Garden Court et voyant Madame Merle, il se serait pris de sympathie pour elle et lui aurait fait part de son amour pour la jeune fille. Il se trouvait qu'au cours des visites de cette dame à Garden Court, visite beaucoup plus brève que la dernière, il était absent de Lockley, ou n'était pas venu chez Mr. Touchett. Aussi bien qu'elle le connût de nom comme le grand homme de ce coin de pays, n'avait-elle aucune raison de voir en lui un amoureux de la nièce fraîchement importée de Mrs. Touchett. « Vous avez bien le temps, disait-elle en réponse aux demi-confidences d'Isabelle, qui malgré le vague de ses aveux, en conservait quelques remords. Je suis heureuse que vous n'ayez encore rien fait. Qu'il vous reste encore une décision à prendre. Il est excellent pour une jeune fille d'avoir repoussé quelques bonnes propositions, à la condition naturellement que ce ne soient pas les meilleures qu'on puisse lui faire. Ne m'en veuillez pas de parler de façon aussi éhontée. Il faut bien adopter parfois le langage du monde. Seulement, ne vous mettez pas à refuser pour le plaisir du refus. C'est un agréable exercice de volonté, mais en somme, c'est aussi un exercice de volonté que d'accepter. Et puis, il y a toujours le danger de refuser une fois de trop. « Ce n'est pas celui-là auquel j'ai succombé. Je n'ai pas assez refusé. Vous êtes une créature exquise, et je voudrais voir en vous la femme d'un premier ministre. Mais, à proprement parler, vous n'êtes pas ce qu'on appelle un parti. Vous êtes parfaitement jolie et fort intelligente. Par vous-même, vous êtes tout à fait exceptionnelle. Vous semblez n'avoir que des notions très vagues de vos biens terrestres, mais, d'après ce que je puis deviner, vous n'êtes pas gênée par vos revenus. Je voudrais que vous ayez un peu d'argent. Moi aussi. » dit ingénument Isabelle, sans paraître se souvenir que son dénuement n'avait pas fait l'effet d'un tort bien important à deux soupirants héroïques. Malgré la bienveillante insistance de Sir Matthew Hope, Madame Merle ne prolongea pas sa visite jusqu'à l'issue dorénavant trop certaine de la maladie du pauvre Mr. Touchett. Elle avait d'autres engagements qu'il lui fallait enfin remplir, et elle quitta Garden Court en promettant de revenir voir Mrs. Touchett à la campagne ou à Londres avant de quitter l'Angleterre. Ses adieux à Isabelle parurent, encore plus que leur rencontre, nouer un lien d'amitié. « Je vais dans 6 maisons successives, mais je n'y rencontrerai personne qui me plaise autant que vous. Dites-vous bien cela, et pensez à moi aussi avantageusement que possible. Il faut me remercier en croyant en moi. » Pour toute réponse, Isabelle l'embrassa, et bien que les femmes s'embrassent souvent avec facilité, il y a baisé et baisé, et celui-là fit plaisir à Madame Merle. Ce départ laissa notre jeune amie fort solitaire. Elle ne voyait sa tante et son cousin qu'au repas, et s'apercevait que Mrs. Touchett ne consacrait plus à son mari qu'un nombre infime des heures durant lesquelles elle se rendait invisible. Elle en passait le reste dans ses appartements particuliers, dont l'accès était interdit à sa nièce même, et où elle semblait se livrer à des besognes mystérieuses et incompréhensibles. À table, elle était grave et silencieuse, sans que l'on pût taxer d'affecter une solennité évidemment pleine de conviction. Isabelle se demandait si sa tante se repentait d'avoir si longtemps suivi sa route solitaire, sans observer pourtant chez elle aucune manifestation de regret, larmes, soupirs, ni sollicitude excessive. Mrs. Touchett semblait éprouver seulement le désir de rappeler et de collationner ses souvenirs. Elle avait son livre de contes moral, avec colonnes imperturbablement alignées et solide fermoir d'acier, qu'elle tenait en ordre exemplaire. Ses réflexions prenaient toujours un accent pratique. « Si j'avais prévu les événements, je ne vous aurais pas proposé de vous amener ici maintenant, » dit-elle à Isabelle après le départ de Madame Merle. « J'aurais attendu l'année prochaine. Je n'aurais pas connu mon oncle. Je suis bien heureuse d'être venue sans tarder. Il est très gentil à vous de le dire, mais ce n'est pas pour vous faire faire la connaissance de votre oncle que je vous ai menée en Europe. » Observation parfaitement justifiée, bien qu'un peu intempestive au gré d'Isabelle. Elle eut le loisir d'y songer ainsi qu'à d'autres propos. Elle faisait chaque jour une promenade solitaire, et passait des heures vagues à feuilleter des livres dans la bibliothèque. Parmi les sujets qui retenaient son attention, venaient au premier plan les aventures de son amie Miss Stackpole, avec qui elle entretenait une correspondance suivie. Isabelle préférait de beaucoup le style épistolaire intime de son amie à celui de ses articles, ou du moins eût-elle fort apprécié ses lettres ouvertes si elles étaient restées inédites. La carrière d'Henriette n'était pas aussi facile qu'on eût pu le souhaiter pour son bonheur particulier. Ce tableau de la vie intime en Grande-Bretagne, qu'elle désirait tant peindre, semblait danser devant elle comme un feu follet. Des raisons mystérieuses avaient empêché l'invitation de Lady Pensil de lui jamais parvenir, et le pauvre Mr. Bentling, malgré toute sa naïve sympathie, ne s'était jamais expliqué l'étrange disparition d'une missive qu'on avait pu manquer d'envoyer. Il prenait évidemment fort à cœur les affaires d'Henriette, et croyait lui devoir une compensation pour cette illusoire promesse d'une visite dans le Bedfordshire. « Il me conseille un voyage sur le continent, » écrivait Henriette, « et comme il envisage d'y faire un tour lui-même, je pense que son avis est sincère. Il me demande pourquoi je ne ferais pas une étude de la vie en France, et il est de fait que j'ai grande envie de voir la Nouvelle République. Mr. Bentling n'a pas de goût bien marqué pour la République, mais n'en compte pas moins se rendre bientôt à Paris. Je dois dire qu'il se montre aussi plein d'attention qu'on peut le souhaiter, et j'aurais vu au moins un Anglais poli. Je lui répète qu'il aurait dû naître américain, et je voudrais que vous voyiez quel plaisir lui fait ce compliment. » Chaque fois que je le répète, il pousse la même exclamation. « Ah vraiment, voyons !» Quelques jours plus tard, Henriette écrivit qu'elle avait décidé de se rendre à Paris et que Mr. Bentling promettait d'assister à son départ, peut-être même de l'accompagner jusqu'à Douvres. Miss Stackpole ajoutait qu'elle attendrait Isabelle à Paris, comme si cette dernière eût dû partir seule, et sans faire aucune allusion à Mrs. Tutchett. Se souvenant de l'intérêt témoigné par Ralph à son amie, Isabelle lui lut plusieurs passages de ses lettres, et Ralph suivit avec une émotion vibrante la carrière de la journaliste. « Il me semble qu'elle fait son chemin, » admira-t-il, « partir pour Paris avec un ex-lancier. Si elle est à court de sujet, elle n'aura qu'à décrire cet épisode. »« Ce n'est pas très traditionnel, à coup sûr, » répondit Isabelle. « Mais si vous croyez que de la part d'Henriette, du moins, ce ne soit pas parfaitement innocent, vous vous trompez lourdement. Vous ne comprendrez jamais Henriette. » « Pardon, je la comprends parfaitement. Je ne l'ai pas comprise tout d'abord, mais j'ai fini par découvrir le point de vue nécessaire. C'est le pauvre Bentling qui ne l'a pas trouvé, je le crains. Il pourrait se réserver des surprises. Moi, je comprends Henriette comme si je l'avais faite. » Isabelle n'en était pas convaincue, mais s'abstint d'exprimer son doute, car elle était décidée, en ces jours d'épreuve, à montrer beaucoup de douceur à son cousin. Une après-midi, moins d'une semaine après le départ de Madame Merle, elle était installée dans la bibliothèque et parcourait distraitement un volume. Elle était assise dans une embrasure de fenêtre et jetait les yeux sur la tristesse du parc humide. Comme la bibliothèque faisait angle droit avec la façade de la maison, elle voyait le cabriolet du docteur qui attendait depuis 2 heures à la porte. Elle fut frappée de cette station prolongée, mais vit enfin sortir le praticien, qui s'attarda un moment à mettre ses gants et à regarder les genoux de son cheval avant de monter en voiture et de s'éloigner. Isabelle demeura encore une demi-heure à sa place, attentive au grand silence qui régnait dans la maison. Silence si profond qu'en entendant un pas lent et feutré sur l'épais tapis de la pièce, elle fut presque effrayée. Elle se détourna vivement de la fenêtre et vit Ralph debout devant elle. Il gardait toujours les mains dans ses poches, mais ne laissait voir sur son visage nul soupçon de son habituel et silencieux sourire. Elle se leva, avec un geste et un regard interrogateur. « C'est fini, » dit Ralph. « Vous voulez dire que mon oncle ?» Isabelle s'arrêta. « Mon cher père est mort, depuis 1 heure. »« Ah, mon pauvre Ralph !» gémit-elle doucement, en lui tendant les 2 mains.